Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mal vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine, cuisine, décoration, jardinage, lecture, activités sportives et mille autres choses. Et ce matin, des conseils pour bien choisir et déguster son thé ou l'acheter, lequel boire selon l'heure de la journée. Faut-il forcément bannir les sachets et préférer le vrac? Comment infuser à la bonne température selon le type de thé? Quelle est la bonne durée d'infusion? Nos experts, François-Xavier Delmas et Yasu Kakegawa, éclaireront notre lanterne. Notre chef, Grégory Cohen, vous proposera une création sucrée pour accompagner votre tasse de thé. Ce sera bien réconfortant alors que pointent les premiers frimas. Voyage sur votre canapé grâce à l'ami Ismaël Khalifa qui vous amènera au Sénégal dans Échappée Belle, samedi soir, sur France 5. Une belle histoire humaniste. Le sexygénaire Éric Libio vous proposera un polar qui vous procurera un grand plaisir de lecture.
Ah ouais, bien vu là.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Pas encore sexygénaire,
pas encore.
Hein, on en est loin. Qui ne boit pas de thé passé 16 heures, sinon c'est nuit blanche. Hein.
Exactement. Et c'est magnifique. Effectivement, c'est nuit blanche aussi entre samedi et dimanche. Et
donc à Paris.
Et dans d'autres villes d'Europe aussi. Oui. Enfin, il y a tout un calendrier. Mais donc on se demande aujourd'hui, on interroge notre rapport à la nuit.
Bonjour Guillaume Todicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qu'avez-vous choisi cette semaine?
J'ai choisi Momo. Momo, il habite chez Madame Rosa et je pense qu'il nous apprend à aimer les gens de manière vraiment particulière.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vouvoie pendant l'émission. Une chronique lentement infusée tout à l'heure.
Absolument, on va déguster. Je vais parler d'une pratique sociale et sexuelle qui s'appelle le teabagging. Donc on reste dans la thématique du jour.
D'accord, bon écoutez, on va écouter ça avec beaucoup de profit. Et vous dites-nous comment vous aimez déguster votre thé. Nous attendons vos questions sur la manière de bien le choisir au 01 45 24 7000 et en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Qui se moque de moi quand ma langue fourche, hein, je vous ai vu pendant
non,
notre introduction.
Je crois que c'était jardinage, non?
Non, c'était jardinage.
Merci beaucoup Grégory Cohen, hein, vous êtes un soutien absolument formidable.
Un ami avant tout,
vous êtes chef invité au restaurant Voyage à la Samaritaine à Paris avec un menu très japonisant
qui s'appelle Ryoku. Donc l'invitation au voyage et j'y suis jusqu'au 15 octobre, donc dépêchez-vous.
Et pour déguster notre thé ce week-end, une douceur qui fait déjà saliver notre réalisatrice Claire Destacan. Hein.
Alors je pense qu'en fait ça va être ma recette la plus courte parce que je suis tellement fier du nom que j'ai trouvé qu'on va s'arrêter là, je pense. C'est le tiramisu.
Tiramisu.
Pas mal.
Bon, voilà. À tout à l'heure, en tout cas. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Ali.
Chroniqueur poche et polar à lire, magazine littéraire. Quel polar nous fera frissonner de plaisir ce week-end?
Eh bien, écoutez, nous allons voyager avec Donna Leon, qui a sorti son dernier roman, En eau dangereuse.
Et nous accueillons nos deux experts du thé. Bonjour François-Xavier Delmas.
Bonjour.
Créateur Ali. Du Palais d'été, vous avez notamment publié chez EPA, Tea Sommelier, le thé en 60 leçons illustrées. Et vous animez le blog Chercheur de thé ainsi que le podcast Un thé, un voyage. Bonjour Yasu Kakegawa.
Bonjour Ali.
Bienvenue. Vous êtes conférencier et écrivain. Vous êtes sommelier de thé à la pâtisserie Tomo à Paris. Et vous publiez chez Marabout Le thé, c'est pas sorcier. Expliquez-nous en quelques mots votre métier de sommelier de thé.
Sommelier de thé, c'est un petit peu comme les sommeliers qui travaillent avec donc les vignobles, avec choisir les vins. Donc le thé, c'est un petit peu comme, en fait, c'est nouveau, mais il y a beaucoup de complexité. Mmh. Les arômes sont aussi riches que les vins ou les cafés, grands crus de café. Donc c'est un petit peu donc, la même manière. Donc c'est côté pédagogie et puis aussi sélectionner. Et puis c'est aussi transmettre. Le thé, c'est beaucoup de choses. À la fois, c'est la culture, il y a la vie quotidienne et puis c'est des échanges.
Et le maître de thé, Lu Yu, disait que la sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Et l'autrice de La jeune fille à la perle, Tracy Chevalier, aime le thé car c'est une communion intemporelle entre le corps et l'esprit. Et vous, pourquoi êtes-vous tombé amoureux du thé, François-Xavier Delmas?
En buvant. Moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai fondé Palais d'été un peu par accident. Au départ, j'étais pas très bon à l'école, nul, et je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose de sa vie. Je connaissais rien au thé, et ça me gêne pas aujourd'hui de le reconnaître parce que je pense qu'après 35 ans de vie de chercheur de thé, d'aller chercher du thé à droite à gauche dans toutes les montagnes, et le fait justement d'être tea sommelier, qui est quelque chose d'extrêmement important, peu à peu, c'est devenu quelque chose de majeur, et j'imagine pas aujourd'hui que ma vie...
Et pourquoi ?
Parce que le thé, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien au corps, et ça vous fait du bien à l'âme. Et ça vous fait voyager, et je pense que plus ça va et plus on en a besoin. On vit dans un monde où tout le monde est là, avec son pouce, sur son téléphone, tout le monde échange, tout va très vite. Et le thé, c'est une pause, c'est une respiration, c'est un peu comme le yoga, et c'est pas emmerdant le thé. C'est joyeux, c'est ludique, c'est gastronomique, et c'est réjouissant. C'est pas hilarant, mais c'est réjouissant. Et on se fait du bien, on se fait du bien aux autres. C'est un moment d'échange. Ça peut être un moment pour soi, parce qu'on a besoin de se recentrer. Ça peut être un moment sur les autres. Et il y a plein de goûts. Il y a des thés verts, noirs, des thés blancs, des thés bleu-verts. En termes de gastronomie, c'est riche, le thé. Et pourquoi est-ce que vous demandiez tout à l'heure, petit sommelier, pourquoi? Parce qu'il y a plein de chefs qui sont demandeurs, qu'on les aide. Ils ont envie d'avoir d'utiliser le thé comme un ingrédient. Ils ont envie parfois aussi de dire, bon, avec cet aliment, qu'est-ce que je peux déguster comme thé? Qu'est-ce qui va en termes de, parce que j'aime pas les mots anglais, de pairing? Et il y a une vraie demande pour ça, voilà.
Oui, on cuisine même avec du thé. Moi, je fais un bouillon à base de ganmai sha. Il y a une palette qui est complètement hallucinante. Et c'est vrai que nous, on est un peu éduqués à un thé. On était un peu éduqué à un thé un peu restrictif qui est le petit paquet jaune qu'on prenait au petit déjeuner. Et quand on voyage, on découvre d'un coup une palette absolument exceptionnelle. Et avoir des gens pour nous guider, c'est fabuleux.
Yasu Kakegawa, pourquoi cet amour du thé?
C'est pour moi, c'était un petit peu, j'ai signé au Japon. Donc c'est vrai, au Japon, c'est le thé, c'est un peu partout dans la vie quotidienne. Et puis aussi la cérémonie de thé. Après moi, personnellement, donc en fait, dans ma famille, j'étais la personne qui était le plus sensible au niveau de l'odorat. Et puis ça m'a, voilà, petit à petit, après, surtout comme métier, c'est plus vraiment les rencontres. On parle de la tradition, mais les artisanats, c'est vrai, c'est si on fait pas les efforts, malheureusement, donc des choses que on pense que ça c'est normal, mais ça peut se perdre. Donc je voulais contribuer quelque chose, quand même, la patrimoine universel, donc pour la postérité et puis pour les autres. Et puis j'ai trouvé vraiment, il y a dans chaque domaine, il y a vraiment quelque chose à savoir faire qui ont été transmis de génération en génération, vraiment la richesse incroyable de chaque pays, chaque culture. Donc c'est ce qui m'a vraiment encouragé de ma manière. Donc j'ai signé au Japon, et puis après j'ai un lien, donc j'ai vécu, donc depuis longtemps j'ai vécu en France, donc voilà, je voulais faire quelque chose dans ce sens, voilà.
Et vous nous aiderez tout à l'heure à bien choisir et à bien déguster son thé. Thibaut de Saint-Maurice, c'est votre tasse de thé, le Darjeeling, le Earl Grey, le Oolong?
Oui, alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est très bon, et la deuxième, c'est que ça fait voyager, effectivement. Maintenant, je dois reconnaître aussi que je suis un peu paresseux, et le thé, ça demande quand même un effort, j'ai l'impression, de préparation. En tout cas, moi, c'est un peu l'obstacle, c'est-à-dire il faut trouver un peu le bon moment, parce qu'il faut à la fois que l'eau chaude, l'eau chauffe, pardon, puis après attendre qu'elle soit buvable, et il faut la bonne température, il faut la bonne quantité de thé dans une tasse, un mug, etc., ou dans une théière. Bref, j'avoue que moi, parfois, je me laisse un petit peu prendre par l'idée que le thé, c'est compliqué, mais je serais ravi que vous me donniez des trucs pour que ce soit moins compliqué.
En fait, tout dépend du thé qu'on a. Oui, c'est le thé, ce sont des feuilles au contact de l'eau. C'est juste ça. Donc c'est quelque chose de... Il y a rien de plus simple que ça. Après, il y a certains thés qui sont plus sophistiqués que d'autres. Il y a certains thés qui nécessitent en effet une eau à une certaine température, sinon on les flingue. Il y a des thés très fragiles et d'autres moins fragiles. C'est un peu, je dirais, comme en cuisine. Si on achète un aliment comme des cèpes qui est assez fragile, bah oui, il vaut mieux avoir... C'est pas des champignons de Paris. Donc le tout, c'est d'acheter de la matière première qui convient à l'usage qu'on va en faire, et peu à peu de progresser. Et c'est drôle parce que, vous voyez, moi, ce moment-là, le moment de la préparation du thé, je trouve que c'est un grand bonheur. Et c'est ce moment, aujourd'hui, il y a une expression qui dit se mettre bien. Et bah pour moi, les minutes qui précèdent le moment où je vais déguster le thé, c'est juste se préparer à le déguster, c'est se mettre bien.
Alors on se mettra bien hein, tout à l'heure en votre compagnie. En attendant, place au livre. Éric Libiot. Pourquoi lire En eau dangereuse de l'américaine Donna Leon, une américaine qui vit à Venise.
Oui, mais si vous dites tout ce que j'ai écrit, alors
En eau dangereuse.
Tout mon lancement est raté.
Publié chez Calman Levy.
Oui, alors c'est une émission loisir hein, aujourd'hui, donc on va voyager avec la romancière Donna Leon, qui a un nom à consonance plutôt espagnole, donc on va voyager, comme vous le disiez, je vous remercie, en Italie, et plus exactement à Venise, où elle a situé absolument tous ses romans. Et ils ont aussi tous pour héros le commissaire Brunetti, depuis mort à la Fenice en 1997, jusqu'à ce En eau dangereuse, moi aussi je vais bafouiller, son 29e roman chez Calman Levy. Tous ses romans c'est Venise, tous ses romans c'est Brunetti. Et je dois avouer que ça faisait un bail que j'avais pas lu Donna Leon.
Qui est Brunetti?
Son commissaire, voilà. Son héros. Je l'ai dit, non?
Si.
Si, ben voilà. Ouais, ouais,
mais c'était juste un peu allié, excusez-moi.
La pédagogie, est née de la répétition.
C'est vrai, voilà. Vous n'avez pas tort. Là, à vrai dire, Donna Leon, c'est pas vraiment ma tasse de thé. D'ailleurs, je remarque qu'il y a que moi qui n'ai pas été servi en thé aujourd'hui. Enfin, voilà.
Parce qu'on sait que vous préférez le chouchen. Hein,
voilà. Bon. Moi, je suis plutôt whisky, sans glaçon, mais avec modération. Mais puisque vous me demandez un polar qui fait du bien, alors parfois c'est un peu un oxymore, hein, un polar qui fait du bien.
C'est souvent
un peu noir, un petit peu sanglant. Je me suis un peu creusé la cervelle et j'ai reçu ce roman de Donna Leon et je me suis demandé où est-ce qu'elle en était, parce que je l'avais lu quand même à peu près au siècle dernier. J'avais bien aimé à l'époque, mais je m'en étais un petit peu lassé. Alors c'est souvent une promenade assez agréable dans Venise, hein, les intrigues sont solides, mais il y avait un classicisme un peu pépère, un peu trop pâteux, crémeux à mon goût, et j'ai fini par la délaisser. Je dois reconnaître quand même que Donna Leon traite assez régulièrement et avec pertinence de tous les problèmes qui se passent en Italie. D'ailleurs, elle interdit, ça c'est un peu étrange, ces romans soient traduits en italien parce que, justement, on l'accuse, alors il y en a qui le lisent évidemment en anglais ou en français ou dans d'autres langues, parce qu'elle est traduite dans beaucoup de pays, l'accuse de stéréotypes, de voir un petit peu l'Italie d'une façon un peu manichéisme, mais on sait aussi que les Italiens montent assez rapidement en surchauffe.
C'est donc, pas un cliché, ça?
Oui, c'est aussi un cliché, mais moi je ne fais que des clichés, Alice. C'est aussi pour ça que vous m'invitez, vous le savez bien. Et c'est vrai que c'est un petit peu le pendant de Ruth Rendell et de P.D. James. Hein, c'est à la fois une intrigue policière, un arrière-plan social, la vie quotidienne, en l'occurrence des Italiens et des Vénitiens. Donc j'y suis retourné après une bonne dizaine d'années d'abstinence, un peu plus même. Et je suis assez content de ces retrouvailles, finalement. Ça fait du bien, comme quoi parfois il faut laisser passer un peu de temps pour se retrouver. Voilà. Ça, je dis rien. Bon, alors, dans Eau dangereuse, Brunetti et sa camarade.
Je sais pas qui ça vise, il y a comme ça.
Non, mais personne, absolument personne, mais c'est le genre de truc où tout le monde se pose la question après de savoir ce qu'il dit. Mais pourquoi il dit ça? Claudia Grifoni enquête sur un accident suspect, hein, la mort de Vittorio Toso, qui est mort après un accident de moto. Évidemment, c'est pas vraiment un accident de moto. Il est donc question de distribution d'eau, du système de santé italien qui part à volo, en l'occurrence. Donc, il y a une critique assez féroce du système de santé italien, du quotidien des Vénitiens, de l'afflux du tourisme et des touristes, de corruption et de la façon dont communique le maire pour minimiser la délinquance et faire briller un petit peu son l'image de sa ville, pour faire venir du touriste alors qu'il y en a trop. Enfin, il y a toutes ces contradictions que met en scène Donna Leon. Et je dois dire que c'est assez du solide, hein, ça se lit vraiment avec grand plaisir. C'est une balade touristique, policière, sociale, politique, à travers l'Italie et Venise, et elle chope bien l'ambiance du coin. Donc je suis assez content de ces retrouvailles. Je suis pas sûr d'y retourner dès le prochain roman. Je vais peut-être laisser passer quelques années, mais
ans, ouais,
je dois dire
bon.
Que non, peut-être pas 10 ans. Quand même. Mais celui-là, En eau dangereuse, donc chez Calman Levy, est plutôt un excellent millésime.
En eau dangereuse de l'américaine Donna Leon, c'est publié chez Calman Levy. C'est à déguster ce week-end avec un bon thé noir. Voyage humaniste demain soir sur France 5 avec un échappé belle consacré au Sénégal et présenté par Ismaël Khalifa.
Vous m'amèneriez à l'Alliance Française ?
Vas-y.
Ok. Ah, je suis vraiment content d'être arrivé à Ziguinchor. Hein.
Ah,
ça sent bon l'aventure, je trouve, Ziguinchor.
Ah ouais, parce que c'est très loin des capitales. Hein. Nous, on est dans le Sénégal, mais chaque région a son identité. Chaque région, ça c'est défini par un de leurs comportements. Comment vivent les gens de cette région ? Comment ils accueillent des gens ? Comment ils voient la vie ? Nous, on voit la vie simplement. Hein. on est solidaire ensemble, hein, parce que nous ici on est en famille. Tu peux être Paul, lui Manjak ou bien un Djola, mais ça se voit pas. Le chrétien, le musulman, on vit entre nous, on s'entraide entre nous. C'est ça qu'on vit ici. C'est ça qui fait la beauté de la région. C'est pour cela que moi j'aime pas quitter ici. Moi j'aime rester ici tout le temps. C'est très nice. Je peux pas avoir ça. Je peux pas avoir ça ailleurs.
C'est très nice.
C'est très cool.
Ah ouais, c'est très cool.
Ouais.
J'aime bien ça, c'est très nice. C'est pas mal, c'est une expression de Casamance, ça, non?
Ah ouais.
Bonjour Ismaël Khalifa.
Bonjour Ali.
Vous êtes allé à la rencontre de la jeunesse sénégalaise, hein, dans Échappée Belle. Alors vous êtes parti à la recherche d'un petit garçon qui s'appelle Moutarou. Vous êtes son parrain depuis 3 ans au sein de l'association Un Enfant par la Main. C'est ce que vous montrez,
oui,
dans ce Échappée Belle.
Eh bien, le but de cette échappée, c'était vraiment cela. Et d'ailleurs, la production m'a fait confiance pour ça, donc c'était quand même assez génial. L'idée, c'était donc d'aller rencontrer ce petit garçon qui vit dans un petit village au beau milieu de la Casamance, assez dur d'accès. Et il se trouve que moi, depuis 3 ans, je participe au financement de son éducation et de sa santé. Mmh. Et j'en avais fait un héros de roman pour enfants, puisque Moutarou est un personnage d'un livre qui s'appelle La Ligue de la Nature que j'ai écrit. Et je m'étais toujours promis, si je pouvais un jour, d'aller lui offrir ses livres. Et j'ai eu l'occasion de le faire à travers ce reportage qui, vous l'imaginez, donc a eu une place très puissante pour moi, dans mon cœur et dans tous les voyages que j'ai pu réaliser.
Mmh. Il paraît que vous avez été accueilli comme un chef d'État. Hein.
Oui, alors ça c'est quand même un truc hallucinant. L'équipe en fait était partie un petit peu avant moi et avant que j'arrive, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon, quoi qu'il arrive, vis ce que t'as à vivre et te préoccupe pas de ce qui se passe ici. Et quand je suis arrivé, il y avait mes 1000 personnes qui m'attendaient et toutes voulaient me serrer la main et j'avais l'impression d'être à la fois un prince de Corse ou Emmanuel Macron en visite officielle. C'était assez gênant pour ne rien vous cacher et en même temps, bien c'est ce que les gens voulaient. Donc, quand on est dans ce genre d'endroit, on se laisse porter et il y a tellement de volonté tactile, de toucher, de serrer la main. La plupart des enfants qui étaient là voyaient un parrain et un occidental pour la première fois.
Ouais. Alors, donc, vous êtes le parrain, Ismaël, vous êtes le parrain donc de Moutarou depuis 3 ans au sein de l'association Un Enfant par la Main. Comment parrainer un enfant? C'est une petite action concrète avec de grands effets, hein.
Oui, c'est très très simple. Donc il y a des associations dont Un Enfant par la Main, vous pouvez trouver sur internet et vous inscrivez, vous déterminez la zone géographique où vous souhaitez parrainer un enfant. Moi j'avais choisi le Sénégal et ensuite vous faites un don mensuel d'une 30aine d'euros pour la mise de départ. Vous pouvez décider de faire plus. Et cet argent en fait a un effet très concret. Moutarou, sa famille gagne entre 40 et 50 euros par mois. Donc vous imaginez qu'avec 30 euros on peut faire des choses absolument fabuleuses et notamment ça évite aux enfants de devoir aller travailler dans les champs puisque c'est une agriculture qui est pratiquée là-bas, qui est très rudimentaire. Donc les enfants sont une force de travail importante. Et voilà, donc ça a un rôle essentiel pour la vie, le développement et l'avenir de tous ces enfants.
Alors je rappelle le nom de l'association, Un Enfant par la Main. Échappée Belle, un beau voyage humaniste, demain à 20h50, c'est sur France 5. Je vous connais un peu, Ismaël, vous êtes vraiment un chouette type, vous êtes un ovni dans le joyeux monde, hein, de la télévision. Merci Ismaël.
Ça nous fait un point commun, donc,
merci beaucoup. Allez, il est temps de faire connaissance avec l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, après le héros de The Truman Show la semaine dernière, qui va devenir notre ami ce vendredi?
Alors c'est un petit garçon de 12 ans. Enfin non, ça c'est ce que dit Madame Rosa. En fait c'est un petit garçon de 14 ans. Parce que cher Ali, chères auditrices... Chers auditeurs, dans la vie, il peut arriver que le dicton, vous savez, les amis de mes amis sont mes amis, foire complètement. Une super copine vous présente un pote à elle, tu verras comme il est fun. Mais en fait, le type vous hérisse à sa première vanne politique ou passe la moitié de la soirée à vous vanter les mérites de sa nouvelle Tesla. Dans la fiction, en revanche, certains de mes amis me font aimer les leurs plus que tout. C'est donc le cas de Momo, le petit narrateur de La vie devant soi de Romain Gary, qui, avec ce roman incroyable, décrochait un deuxième prix Goncourt en 1975 sous le pseudo d'Émile Ajar, en se fichant donc ouvertement de son identité nationale. Momo, ou Mohamed, vit à Belleville, chez Madame Rosa. Et comme il a 12 ans, enfin 14, vous verrez, vous avez qu'à lire le livre, sa grammaire, sa syntaxe et ses expressions fleurent bon l'enfance, mais aussi la vérité la plus crue. Il écrit comme il parle, Momo. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied. Et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus. Et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'est une femme qui aurait mérité un ascenseur. Alors mon Momo, il n'a pas son pareil pour décrire son monde. Dur dehors, mais doux dedans. Des prostituées, des proxinettes, j'adore qu'il se trompe sur ce mot-là, des noirs, des arabes, des travestis et des vieux qui se tiennent chauds. Et bien sûr Rosa, vieille asthmatique, ancienne prostituée, qui, je cite Momo, s'est spécialisée en nounou de fils de pute. Le petit musulman accompagnera la vieille juive jusqu'au bout. Vous verrez. Alors aujourd'hui, Mohamed a 60 ans. Il n'a jamais quitté ce quartier de Belleville qui, depuis un siècle, de décennie en décennie, a accueilli des migrants polonais, arméniens, juifs, arabes, africains et chinois. Il entend à la télé et à la radio des historiens sérieux rappeler à un falsificateur. Momo, il aurait dit peut-être salsificateur, que Vichy a bien participé à la déportation de juifs français. Mais il pense à beaucoup aussi à Madame Rosa, qui s'était aménagé une cachette dans sa cave, au cas où ça recommencerait.
Madame Rosa, qu'est-ce que c'est ici? Pourquoi vous y venez des fois au milieu de la nuit? C'est quoi?
C'est ma résidence secondaire. C'est mon truc juif. Tu comprends?
Non, mais ça fait rien.
Et ben, c'est là que je vais me cacher quand j'ai peur.
Peur de quoi, Madame Rosa?
Oh, c'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur, hein.
Pour avoir peur. Alors, Mohamed, de temps en temps, il a une peur rétrospective. Il se demande ce qu'il serait devenu sans cette juive polonaise, si elle n'était pas revenue d'Auschwitz. Cette juive étrangère qui, un jour de 1942, au petit matin, avait entendu la sonnette, ouvert la porte de son appartement de Belleville et avait été conduite au Veldiv par des policiers français. Il se demande si un jour, il devra lui aussi craindre le bruit de la sonnette. Et puis, il pense à Monsieur Hamil, le vieil arabe avec lequel il aimait tant bavarder dans le livre de « Temps de tolérance » de Romain Gary. Monsieur Hamil m'avait dit souvent que le temps vient lentement du désert, avec ses caravanes de chameaux, et qu'il n'était pas pressé car il transportait l'éternité. Mais c'est toujours plus joli quand on le raconte que lorsqu'on le regarde sur le visage d'une vieille personne qui se fait voler chaque jour un peu plus. Et si vous voulez mon avis, le temps, c'est du côté des voleurs qu'il faut le chercher. Alors oui, grâce à mon cher ami Momo, je sais surtout qu'il ne faut pas se laisser voler notre temps et notre histoire par n'importe qui.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino, et vous pouvez lire La vie devant soi de Romain Gary, c'est publié en poche chez En Folio, et vous pouvez
aussi voir le film, mais surtout lire le livre,
évidemment. Dans un instant, comment bien choisir et bien déguster son thé, vos questions au 01 45 24 7000. Tout au long de la semaine, Grand Bien vous fasse a été préparé par notre chargé de programme Alexia Rivière et notre attaché de production Julien Macarez, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation était signé Claire Destacan, avec à la technique cette semaine le duo cool, hein, Pierre Rive de Rolin et Rémi Sistiaga. Programmation musicale, Valentine Chedebois, et on écoute Delight. Dig.
The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Of what's to come,
succotash, my succotash wish.
Sing it, baby.
Interprété Groove is in the Heart.
Voulez-vous une bonne tasse de thé?
Mais qu'est-ce qu'il a à crier comme ça?
Juste une demi-tasse pour moi.
Grand bien vous fasse.
Je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
Ah oui, ça va nous faire du bien. 10h33, grand bien vous fasse loisir. Comment bien déguster et bien choisir son thé?
À l'entrée de la maison de thé, des pierres inégales mettent en éveil l'attention du visiteur. Au Japon, la cérémonie du thé ne consiste pas seulement à boire du matcha, un thé vert réduit en poudre. C'est l'occasion de déployer un art de vivre, tout en sobriété et en raffinement. Imprégné du bouddhisme zen, ce rituel extrêmement codifié précipite l'essence de la spiritualité japonaise. Il est conçu comme un moment unique dans un monde éphémère. Si vous étiez venu à un autre moment de la journée dans cette même pièce, je suis sûre que le thé aurait été différent. Car chaque instant est différent et précieux. Il faut donc savourer le thé quand l'occasion se présente.
Extrait du documentaire Le thé, maître de cérémonie, diffusé sur Arte. François-Xavier Delmas, je rappelle que vous êtes créateur du Palais d'été. Vous avez notamment publié chez EPA Tea Sommelier, le thé en 160 leçons illustrées. Yasu Kakegawa, vous êtes sommelier de thé à la pâtisserie Tomo à Paris et vous publiez chez Marabout Le thé, c'est pas sorcier. Alors en ce début d'automne, quel est le thé idéal? Un thé vert, un perle de jasmin, un thé boisé?
Je vous donne deux réponses, dès que j'ai du mal à choisir. Soit vous avez envie de prolonger l'été, et du coup vous allez rester sur quelque chose d'un thé vert, alors soit un thé vert japonais, très végétal, très marin, soit un thé vert chinois, plus fruité. Et donc là on prolonge un peu l'été, parce qu'on en a envie. Soit on plonge dans l'automne, alors là il faut des notes de sous-bois, il faut un thé noir. Là devant nous on a un joucro par exemple, ça c'est un thé assez rare, mais c'est une vraie merveille, on est en Corée du Sud. Ah. Des notes.
C'est... Sommelier, hein, vraiment.
Des notes...
Hein.
Un vrai sommelier.
Des notes cacaotées, des notes de sous-bois, des notes de fruits confits. Mais il y a beaucoup de thé noir. Vous allez sur un grand Yunnan impérial de Chine, c'est une merveille. Et ça, c'est un thé très simple. Et là, alors, vous avez une cheminée ou pas de cheminée, mais au moins, vous avez un peu la couleur, vous avez dans votre tasse la couleur du paysage. Vous voyez les feuillages qui deviennent un peu rouges. Et vous contemplez. Parce que, ce qui est joli aussi, c'est de contempler la nature dans une tasse de thé. On est quand même très relié à la nature. Donc là, vous pouvez, soit vous avez un joli paysage devant vous, soit vous fermez les yeux et vous l'avez aussi.
Voilà. Yasu Kakegawa, quelles sont les grandes familles de thé? Il y a... De façon très schématique. Hein.
Schématique, oui. Donc on peut citer donc trois principaux familles de thé. Donc c'est thé vert. Mm-hmm. Et puis donc ce qui est les couleurs de feuilles qui sont récoltées. Ensuite, selon la méthode qu'on utilisait, donc on peut un peu oxyder, c'est ce qu'on appelle thé oolong ou parfois plus vert. Et puis ce qu'on appelle thé noir. Mm-hmm. Maintenant, il y a une tendance à dire plutôt parce qu'en fait, en Occident, on dit thé noir, mais les feuilles, c'est pas tout à fait noir, donc parfois donc en Chine, en Asie, on littéralement ça subit thé rouge, donc dans ce cas c'est le thé a subi complètement oxydation, donc c'est après il y a thé blanc, thé jaune, il y a puer, etc. Mais principalement donc c'est trois grandes familles de thé.
Quels sont les principaux thés consommés en France, François-Xavier Delmas?
Alors en France on ne connaît pas le thé.
Ah, c'est sympa.
On connaît pas le thé, on le découvre. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'on n'a pas une grande culture du thé, mais on a quand même une grande culture de la gastronomie et du coup, on est prêt à découvrir toutes les cultures, toutes les couleurs du thé. Les Anglais sont pas dans ce cas-là. Eux, ils ont leur rituel, tandis que nous, on est prêt à découvrir des thés blancs, des thés noirs, des thés semi-oxydés, des thés sombres et du coup, on a cette sorte de virginité qui est avec cette grande appétence pour la gastronomie qui fait qu'on a très envie de découvrir. Alors souvent, on va commencer par un thé parfumé. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Earl Grey. Bon, bah alors, ça va être typique de même que quelqu'un qui commence le vin, parfois, va commencer avec un kir. Mmh. Et bah, il y aura un peu la même chose avec le thé. On commence par un thé parfumé. Et si vous l'achetez dans un endroit où on fait bien son boulot, et ben, peu à peu, on va vous emmener vers les thés d'origine. Tout à l'heure, on parlait du Genmaicha, qui est un thé japonais avec du riz soufflé. Ça, c'est un thé tout simple, mais ça fait des émules très facilement et on découvre ce genre de thé et après on va vers un autre. On boit pas le même thé toute sa vie.
À chaque heure de la journée, son thé?
Ah bien sûr.
Le matin, par exemple, le thé idéal?
Ça dépend de son humeur, ça dépend. Moi, je commence facilement avec un thé. J'aime bien me réveiller au Népal. Donc, facilement avec un thé vert népalais. Et puis, en milieu de journée, pourquoi pas faire un petit tour en Géorgie, plus tard au Vietnam. Le déjeuner va arriver vite, peut-être des perles de jasmin en apéro. Et puis, un bon thé sombre, un puer, pourquoi pas d'Afrique. Il y en a qui le font, un thé sombre du Malawi. Un thé semi-oxydé de Taïwan en milieu de journée.
Mais pour celui qui n'est pas connaisseur, ça peut paraître un peu compliqué.
Ça peut paraître cher,
oui,
sinon. Est-ce que c'est quand même un budget? Si vous voyagez du Japon à la Corée en passant par la Géorgie, ouais, ça va faire cher.
En fait, quand vous regardez, on met que 2 grammes par tasse. Et quand vous regardez le prix du thé rendu au litre, on n'est pas beaucoup plus cher qu'un soda. La plupart du temps. Et surtout.
On peut acheter des petits sachets. Enfin, quand je dis des petits sachets, je parle pas de sachets.
Et on peut aussi l'acheter en vrac. Et quand on l'achète en vrac plutôt qu'en sachet, d'abord, on fait du bien à la planète. Parce que c'est quand même important. Je sens qu'Ali veut dire quelque chose.
Non, mais allez-y.
On fait du bien à la planète parce que c'est quand même important de limiter tous nos emballages. Et c'est quand même bien de pouvoir aller chez le marchand de thé avec sa boîte vide et de pouvoir la faire remplir. Et en plus, le thé en vrac coûte beaucoup moins cher que le thé conditionné.
Mais Yasu Kakegawa, faut-il forcément bannir le thé en sachet?
Pas forcément. Donc c'est plutôt le thé en sachet, ça peut être pratique. En fait, le thé en vrac, bon, c'est chacun un avantage. Et puis, je pense que le plus important, c'est apprécier. Donc, sans vraiment donc la richesse, plein de possibilités. Donc, il y a toutes les occasions selon nos goûts. Donc, je suis sûr que même ceux qui ont du mal à apprécier le thé, je pense que on peut toujours découvrir quelque chose à correspond à son goût.
Qu'est-ce que vous conseillez? Bon, si on n'a pas la chance d'avoir une maison de thé, une boutique de thé, qu'on achète son thé en supermarché et qu'on achète tout de même un thé en sachet, qu'est-ce que vous conseillez tout de même, François-Xavier Delmas?
Je conseille pas de l'acheter. mais je suis cash. Je pense que le premier plaisir du thé, c'est de pouvoir soulever un couvercle et de sentir. Donc, on doit arriver à trouver un endroit. Et sinon, il y a des tas de choses délicieuses. Si dans son jardin on a de la menthe, et ben on se fait une.
Mais si on n'a pas de jardin,
quand même trouver quelque chose sur lequel verser de l'eau chaude. Je pense, il y a en vrac. Et sinon, on va sur un marché ou, en tout cas, juste de pouvoir sentir et se dire, tiens, celui-là, il me fait envie. Plutôt que d'aller prendre un truc qui est scellé dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Votre conseil tout de même, si on achète son thé en supermarché, Yasu Kakegawa, on choisit plutôt un sachet en fine mousseline, par exemple, si on peut, si on a cette possibilité-là.
Oui, peut-être c'est un peu mieux. Après, je pense que déjà, commencer déjà ça. Après, c'est sûr. Donc aujourd'hui. Comme François-Xavier explique, aujourd'hui en France, il y a plein de possibilités. Donc, quand même, je pense que un peu d'effort, parce que c'est le premier pas pour vraiment apprécier le thé.
Je suis d'accord avec vous. Acheter son thé en vrac, oui, mais ça peut impressionner d'entrer dans une maison de thé, dans une boutique de thé. Quand on n'y connaît pas grand-chose, je connais des gens qui n'osent pas rentrer dans une boutique de thé parce qu'il y a tout un rituel. C'est impressionnant. Et puis quand on pose des questions, on peut paraître, on peut se dire ah je suis un peu bête, je connais, voilà. Ouais, donc ça peut impressionner François-Xavier Demas.
Je sais, oui, je sais. Et on a un effort à faire pour que le thé. Mais en fait, un marchand de thé, c'est comme un caviste. Alors bien sûr, on n'est quand même pas si impressionné. Bien sûr, quand on va chez le caviste, il faut pas être timide et juste lui dire chez un caviste, il y a du vin à tous les prix. Il y a du vin, il y a des bouteilles à 6 euros et puis il y a des bouteilles à 150 euros. Et on n'a pas peur en France de rentrer chez le caviste. Bah, chez le marchand de thé, c'est pareil.
Yasu Kakegawa.
Oui, je pense que c'est pas, donc je pense qu'il y a beaucoup de préjugés et puis parfois nous donc en tant que professionnels de thé, on fait des efforts et puis moi-même vraiment la grande partie de mes activités c'est vraiment donc j'organise des ateliers et vraiment donc à tous les niveaux, aussi bien pour les professionnels que j'ai forme à l'école Cordon Bleu ou vraiment donc en groupe de vraiment des curieux ou même des jeunes publics, aussi bien vraiment donc un public très diversifié.
Vos conseils pour préparer son thé, voilà, j'ai acheté mon thé en vrac, comment bien le doser, quelle eau choisir et à quelle température infuser son thé?
Alors pour bien
le doser, très concret,
très simple, très simple, une pincée à trois doigts par tasse, voilà, une tasse c'est à peu près une dizaine de millilitres. Une eau chaude. Si on a une bouilloire, c'est génial parce que le thé vert est un peu plus fragile que le thé noir et du coup on peut doser entre 80 et 90 degrés. Il faut éviter que l'eau boue.
D'accord, ça c'est voilà.
Eau bouillue.
C'est fondamental.
Eau.
Bravo. Ce qui est pas évident parce que généralement quand on allume sa théière électrique, elle s'arrête quand l'eau boue justement.
La bouilloire.
Ouais, la bouilloire. Ouais.
Et en plus quand on regarde le bilan carbone d'une tasse de thé, c'est pas le transport du thé qui pose problème, c'est l'eau qui chauffe pour le thé. Donc si on est un peu respectueux de la planète, si on a besoin d'une demi-bouilloire, on remplit pas une bouilloire pour la laisser après rafraîchir. Donc en gros, il faut une eau, il faut juste avant qu'elle boue. Voilà, ça c'est bien. Et ensuite, ce qui compte, c'est de faire attention, de minuter si possible, ou si on a, voilà, en général, le thé infuse de 3 à 4 minutes. Ce qui est simple, plus vous achetez un thé basique, entre guillemets, et plus la préparation est basique. Mm-hmm. Et plus vous allez acheter un thé très beau, plus il va falloir faire gaffe. Mais quelqu'un qui achète un thé très beau, il va écouter les conseils que vont lui donner. Normalement, chez un marchand de thé, il y aura marqué le nombre de minutes, etc. Donc le tout, c'est de grandir avec le plaisir qu'on a, mais il faut pas se mettre une pression de dingue parce qu'on a acheté un thé qui coûtait pas grand chose et qui est en vrac. On est là pour se faire plaisir, on est là pour se faire du bien. Si on commence à flipper à l'idée de se faire un thé, alors là, ça va pas du tout.
C'est un peu le cas de Thibaut de Saint-Maurice.
Après, donc, je pense que pour la préparation, souvent, donc, on pense en fait le plus simple. Donc, il y a déjà choisi un thé de certaine qualité. Je vous dis pas forcément le plus cher, mais de thé de qualité. C'est beaucoup plus facile à obtenir un bon résultat, c'est-à-dire donc que le thé basique qui sont en pain industriel, qui est en général très astringent, donc souvent on a une déception. Et en mettant un petit peu de bouger, en général vous pouvez vous tromper la température d'infusion, mais déjà vous commencez à apprécier. Donc
oui. Et on choisit plutôt une eau avec un pH neutre. Hein. Le pH définit l'acidité et l'alcalinité de l'eau. Alors, est-ce que vous le buvez sucré avec du lait, avec une rondelle de citron? Est-ce que c'est sacrilège? Yasu Kakegawa. Ouais, ça, je connais votre réponse, François-Xavier Delmas. Donc, je me tourne vers Yasu Kakegawa. Moi, j'aime bien le thé vert à la menthe. Bon, je sais, c'est sacrilège avec du sucre. Voilà. Donc, c'est peut-être.
Ça, c'est une cérémonie. Voilà. Si vous allez en Angleterre, vous avez le thé avec le lait. Si vous allez en Inde, c'est génial le thé avec les épices, le lait, le sucre, etc. Ouais, c'est un rituel. Donc ça, tout dépend du thé qu'on cherche. On peut vouloir un rituel, et le rituel marocain, le rituel anglais. Si vous allez au Tibet, il y a du beurre de yak fermenté qu'on met dans le thé. Tout est possible quand c'est un rituel.
Pour moi, c'est personnellement, donc j'ai préféré mon thé
sans sucre,
sans
citron,
voilà. Mais après, c'est pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment que chacun apprécie, voilà. C'est déjà commencer à vraiment se faire plaisir. Après, c'est il y a aussi des côtés culturels. Et puis bien sûr, donc quand par exemple, c'est vrai, l'un des pays que j'ai visité souvent, parce que bon, j'ai des amis par lien familial, donc au Maroc, donc bien sûr, quand au Maroc, c'est vrai, c'est quand, pour choisir un thé, sans hésiter, bien sûr, le thé.
Avec du sucre. Donc, thé... et quel type de théière choisir? On n'en a pas parlé. C'est important ou pas?
Oui, il y a deux types de théières. Il y a des théières à mémoire et des théières sans mémoire.
Ah, expliquez-nous.
Si vous aimez toujours le même thé, que vous faites toujours le même, prenez une théière à mémoire, c'est une terre poreuse par exemple, et elle se souviendra toujours du thé précédent, et du coup votre théière, elle va se culotter au fur et à mesure. Si vous zappez d'un thé à un autre et que vous voulez pas qu'elle se souvienne du thé précédent, bah vous prenez un matériau neutre, ça peut être la porcelaine, le verre, la fonte, etc.
Ce qui est important quand on déguste son thé, c'est de mettre ses cinq sens en éveil. Hein. Vous l'expliquez bien dans votre livre.
C'est juste d'être attentif à ce moment-là et d'être attentif. Alors il y a trois sens qui sont très importants, le goût, l'odorat et le toucher. Quand on met quelque chose en bouche, ça c'est fondamental. Mais c'est d'être réceptif à ce moment-là.
Bon, mais merci pour ces conseils, Yasu Kakegawa. Le thé, c'est pas sorcier, c'est chez Marabout. Et François-Xavier Delmas, c'est pas moi qui fais ces bruits.
À mon avis, c'est pour un des sens, je pense. Voilà. C'est pour le Louis, je pense que
c'est important de faire rouler en bouche.
Et petit sommelier de François-Xavier Delmas, c'est chez EPA. Alors, Grégory Cohen, pour accompagner notre tea time ce week-end, un thé ramissou. C'est votre création du week-end.
Eh ben voilà, j'ai trouvé que c'était assez drôle. En fait, c'est venu d'une petite blague. Mon fils, quand il voulait manger un tiramisu, me disait « j'aimerais un petit ramisu ». C'était trop mignon, le petit ramisu. Et quand on m'a demandé de réfléchir à une recette à base de thé, je me suis dit que j'allais en créer une, donc le tiramisu. Alors le tiramisu, ça va être 125 grammes de mascarpone, 40 centilitres de crème liquide, 30%, c'est important. 30 grammes de sucre semoule, les grains d'une gousse de vanille, 150 grammes de fruits rouges, myrtilles, framboises, les fruits de saison. Là, on est sur la fin de cette saison-là. 12 biscuits à la cuillère, 12 biscuits thé et 25 centilitres de thé blanc. Alors, on va monter. Alors, je vous donne une recette de base qui pourra fonctionner pour plein d'autres préparations. C'est la crème liquide en chantilly. Avec le mascarpone, ça nous permet d'avoir une préparation neutre à laquelle on va pouvoir ajouter de la vanille, on va pouvoir ajouter du chocolat si on veut. Pour réussir sa crème chantilly facilement, eh ben, on va mettre tous les éléments qui vont constituer la crème chantilly au frais. Ça va nous permettre d'encapsuler l'air à l'intérieur du gras, du liquide et d'avoir une belle chantilly. Donc on monte sa crème chantilly avec la vanille, on ajoute le mascarpone, on continue à fouetter pour bien incorporer le tout, on réserve au frais. On met le thé dans 25 centilitres d'eau froide avec les fruits et on va laisser infuser une heure environ. Ensuite, on trempe les biscuits cuillères dans le thé, on monte le tiramisu, c'est-à-dire on place une première couche de biscuits cuillères dans le fond d'un plat, on émiette des biscuits thé par-dessus, on nappe de crème mascarpone, on parsème des fruits rouges, on remet une couche de biscuits cuillères imbibée de thé, on recouvre avec le reste de crème, on lisse à la cuillère, on place au frais environ une heure, et puis avant de servir, on émiette encore quelques biscuits thé dessus pour donner du croquant. Les notes de thé, l'onctuosité, la crème, le fondant des fruits... Nul doute que ce dessert express saura vous séduire.
Le thé ramissou de Grégory Cohen.
Le dessert express,
et vous pouvez retrouver la recette sur son compte Instagram, Grégory Cohen off avec
deux F.
Allez, après les nourritures terrestres, les nourritures philosophiques avec Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Je crois à la nuit, écrivait Rilke, et vous aussi, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, alors une petite chronique sur notre rapport à la nuit, en prévision de la nuit blanche, hein, donc qui aura lieu entre la nuit donc de samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France ou ailleurs. Alors si le principe de cette nuit c'est qu'elle soit blanche, peut-être sera-t-elle aussi chaude et sauvage.
La nuit est chaude.
Voilà, donc été 86 à Lille, vous dansiez sur ce tube du groupe des Avions. Et manifestement, ils ont aussi de grands projets pour leur nuit. Alors je ne sais pas si le grand penseur désespéré Émile Cioran était fan de cette chanson, mais lui qui était un grand insomniaque avait aussi appris à aimer la nuit. Et il écrit... On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil. Alors c'est amusant d'écrire ça parce que la nuit est pourtant du côté de l'ombre, de l'obscurité, de l'indistinction. Vous le savez, la nuit, tous les chats sont gris, comme dit le proverbe.
Oui, la nuit a plutôt une image négative.
Oui, c'est vrai, elle n'a pas très bonne réputation, ça remonte à l'enfance. La nuit annonce la séparation d'avec les parents. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, comme dit le petit Marcel, et concentre toute une peur de l'abandon. La nuit, c'est le temps du sommeil et de la suspension de la conscience. Même le fameux « je pense donc je suis » de l'ami Descartes ne résiste pas à la nuit, parce que la nuit, la conscience s'annule, les rêves surgissent et je ne sais plus si j'existe, parce que la pensée n'est plus possible.
La pensée, la conscience, le travail et la raison sont eux plutôt du côté de la lumière et donc du jour.
Oui, la philosophie d'ailleurs s'associe plus volontiers à la lumière qu'à la nuit. La philosophie des Lumières, qui se construit au XVIIIe siècle, conteste l'obscurantisme quasi nocturne de la religion et de la tradition. La raison est un outil de clarification lumineuse et de dissipation des obscurités. C'est la meilleure arme du jour, pendant que la peur, au pire, ou le rêve, au mieux, sont les apanages de la nuit. Alors du coup, pour que la nuit soit supportable, eh bien, il faut qu'elle soit blanche. Une nuit blanche, c'est une nuit désamorcée en quelque sorte. C'est une nuit que l'on peut traverser sans risque parce qu'elle accueille en elle suffisamment de jour et de lumière pour ne plus être menaçante. Mais une nuit blanche, c'est surtout une nuit où l'on ne dort pas. Et si on apprend plus au cours de cette nuit-là, comme le disait Sioran, c'est surtout parce que notre lucidité se trouve démultipliée par le sommeil de tout notre environnement. Tout est calme autour, on peut boire du thé, et au cœur de la nuit, je vois mieux ce que je suis sans être distrait par toutes les lumières du jour et de son agitation. Alors cela étant, on s'agite aussi un peu parfois la nuit. La nuit n'est pas que menaçante.
Ah bon ?
Voilà, c'est aussi le temps de la fête, Maya, le temps des rencontres inattendues et des confidences au clair de lune. La nuit n'est pas si noire quand on garde les yeux ouverts. La nuit, comme l'enfant terrible du jour et de son ordre établi, c'est la nuit surtout que les criminels tuent, Eric, que les voleurs volent, que les baisers se volent, Guillemette aussi d'ailleurs, que les étreintes se tendent, que les musiciens composent, que les écrivains écrivent et que les cuisiniers rêvent à leurs recettes, Grégory. Bref, c'est pendant la nuit que s'invente le jour comme une sorte de fond originel et fondamental. Et on a besoin de cette alternance comme une respiration entre raison et rêve, entre ordre et liberté. Alors oui, on apprend bien plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil.
Et j'imagine les nuits de Thibaut de Saint-Maurice.
Moi, j'adore.
N'hésitez, oui, c'est ça. N'hésitez pas à podcaster, partager la chronique de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter et à la faire écouter à vos enfants et petits-enfants qui passent le bac philo cette année. Allez, dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Et on écoute Juliette Armanet.
Le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco. C'est la fin. Je te tiens.
Juliette Armanet, le dernier jour du disco.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
La chronique sexe du vendredi avec Maya Mazorette. Vous allez également nous parler de thé. Je découvre votre chronique, donc je crains le pire.
En vertu de la règle 34 d'Internet, tout ce qui existe dans l'univers existe en version pornographique ou sexuelle, sans exception. Donc le thé n'échappe pas à la sexualisation via la pratique du teabagging, que je traduis à la hache par sachet de théisation. Le teabagging est une pratique consistant à poser ses testicules sur le visage d'une personne sans son consentement, dans le but de l'humilier. J'ai vu faire ça dans des groupes de jeunes, ça se fait dans des bizutages en soirée ou même dans les jeux vidéo. À première vue, rien à signaler, c'est un peu débile. Mais moi, je trouve que ça pose plein de questions intéressantes. La première, pourquoi est-on humilié par des testicules posés sur notre visage? De quel terrible pouvoir le scrotum est-il le nom? Pour répondre, je vais revenir à l'étymologie du mot testicule, du latin testis, le témoin. Les testicules témoignent de quoi? Eh ben, de la présence du pénis, donc de la présence de la virilité. Quand on teabague, on impose littéralement sa virilité sur le corps de l'autre. Et cette symbolique, un chouïa pesante, se décline dans plein d'autres gestes qu'on retrouve dans les écoles, les vestiaires, parfois les entreprises. Dessiner des pénis sur les affaires de quelqu'un ou dans ses cahiers, pincer les tétons, bifler, faire semblant de mettre un doigt dans les fesses de ses camarades. Et tout ça, bien sûr, en assumant que dalle. Les excuses, on les connaît par cœur. Non mais ça va, c'est bon, je plaisante, c'est drôle, c'est bon enfant, faut pas voir le mal partout. C'est la France, patrie de Rabelais et de la gauloiserie. Bref, on est à deux doigts du poing, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire quand on râle.
Mais c'est dur de répondre à cet argument de l'humour, Maya.
C'est vrai, et d'ailleurs ça aussi c'est intéressant. Là, les pratiques que je viens de décrire sont explicitement destinées à humilier, mais quand la victime reconnaît cette humiliation, on vient lui expliquer qu'elle a tort. En gros, on lui demande de se désolidariser de son propre ressenti, et ça c'est encore plus violent que le teabagging. Du coup, cette revendication de la potacherie sert non pas la liberté d'expression, au contraire, mais plutôt la culture du silence. Parce que si les victimes de ces comportements mettaient des mots sur ce qui leur arrive, il et elle diraient nécessairement qu'il s'agit de contacts sexuels non désirés et qu'en vrai, bah, c'est super grave. Alors ensuite, bon, je sais que c'est pas très drôle et je vous rassure, le mot teabagging a une autre signification sexuelle. C'est l'acte consistant à tremper ses testicules dans la bouche de quelqu'un, de consentant cette fois. Ouf. Je précise d'ailleurs que ce teabagging-là ne peut s'opérer qu'avec quelqu'un de consentant, vu que les testicules, c'est 20 grammes à peine, soit 10 fois le poids d'un sachet de thé, pour info. Et surtout, les testicules, c'est horriblement fragile, donc méfiance en présence d'incisifs, de prémolaires et de mâchoires. On en arrive donc au paradoxe à l'œuvre dans ces deux types de teabagging. Le premier, non consenti, est une illustration de la lâcheté. Le second, consenti, demande pas mal de courage. Enfin, si j'ai encore 3 petites secondes, je réponds à la question que tout le monde se pose, quel est l'équivalent féminin du teabagging? Les débats font rage sur Internet. Moi, personnellement, j'aime bien clit dipping, soit en français le trempage clitoridien. Je sais, ça faisait plein de mots anglais, mais bon, les anglais, LT, c'est toute une histoire. God save the queen!
La chronique sexe de Maya Mazorette à partager sur l'appli France Inter. Coup de cœur cette semaine pour notre auditrice Yvette, 90 ans, qui a partagé sa joie de vivre dans l'émission consacrée au bien vieillir. C'était lundi dernier. Et c'est ainsi que s'achève Grand bien vous fasse. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron et de Christophe André. Lundi dans Grand bien vous fasse, une émission santé consacrée aux erreurs médicales avec France 5. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter.